Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, c'est l'une des conséquences possibles et inattendues du Brexit. En restreignant à l'avenir l'accès du Royaume-Uni aux travailleurs européens, le pays risque de se retrouver confronté à une pénurie de main-d'œuvre. Qu'importe, des scientifiques et industriels ont peut-être trouvé la parade, Marie Billon.
On ne sait pas encore quelles restrictions seront imposées à l'installation des ressortissants européens dans le pays après le Brexit, mais tout laisse penser que les ouvriers sans qualification auront des difficultés pour venir au Royaume-Uni. Le secteur alimentaire est particulièrement inquiet. En 2015, 38% de la main-d'œuvre employée par les fermiers venait d'Europe de l'Est. Si ces travailleurs saisonniers ne peuvent plus venir, c'est la filière alimentaire qui risque de s'écrouler. Du coup, chercheurs et entreprises britanniques cherchent à transformer cette contrainte en opportunité en remplaçant ces salariés manquants par des robots. L'ambition est même de faire du Royaume-Uni l'un des pays leaders dans le secteur de la robotique. L'université de Lincoln, dans le nord de l'Angleterre, est l'un des centres de recherche les plus avancés dans ce domaine. Ces spécialistes sont en train de développer un robot agricole dernier cri, financé par des fonds d'une compagnie qui veut rester anonyme, mais qui a flairé le filon. Thorvald est le nom du robot développé par Pal Johan Fromm. Il s'est déjà donné un coup de main à ceux qui cueillent les fraises en leur épargnant de faire des allers-retours dans les champs pour déposer leur collecte. Il peut aussi se promener dans les plantations et éliminer les moisissures grâce à des rayons ultraviolets. Pour l'instant, il ne sait pas encore cueillir ses fraises. Le robot va devoir développer sa dextérité s'il ne veut pas détruire le plant entier à chaque fois qu'il cueille un fruit. La technologie n'est donc pas encore au point. Selon les chercheurs, il faudra entre 5 et 20 ans pour qu'elle se perfectionne, ce qui est long, mais si la période de transition post-Brexit dure bien jusqu'en 2021, les premiers petits robots des champs commenceront peut-être à sortir des laboratoires, à condition que les financements pleuvent de plus en plus fort.
Eux sont toujours au sein de l'Europe et de l'Espagne. Les Catalans, qui en ce jour de fête nationale espagnole, censés célébrer l'unité du pays, sont plus que jamais divisés sur l'avenir de leur région. À Barcelone, des milliers de personnes ont défilé et scandé des propos hostiles au président séparatiste. Carles Puigdemont, qui s'est vu sommé par Madrid de clarifier sa position sur l'indépendance avant lundi prochain, faute de quoi le pouvoir central pourrait prendre le contrôle de la Catalogne. Alors, qu'en est-il chez ses voisins européens? Les sécessions y sont-elles formellement prohibées? Pour en parler, nous retrouvons Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
On reste tout d'abord en Espagne. La Constitution verrouille-t-elle toute velléité d'indépendance des régions?
Oui, sans aucun doute, puisque son article 2 stipule que la Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. On ne saurait être plus clair. Et le cas de la sécession est même implicitement prévu par l'article 155, que Madrid envisage d'ailleurs d'utiliser. Il stipule « Si une communauté autonome agit de façon à porter gravement atteinte à l'intérêt général de l'Espagne, le gouvernement pourra, avec l'approbation de la majorité absolue du Sénat, prendre les mesures nécessaires pour la contraindre à respecter ses obligations ». Comme partout, une constitution peut être révisée, mais en Espagne, cette révision n'est pas simple, puisqu'elle exige une majorité des 3/5 dans chacune des deux chambres du Parlement, ainsi qu'une ratification par référendum.
La révision semble même plus compliquée en Espagne qu'elle ne l'est en France.
Oui, on peut le dire, en France, seule la majorité simple est exigée à l'Assemblée et au Sénat s'il doit y avoir référendum. Quant à la deuxième option de révision, elle implique un vote à la majorité des 3/5 du Parlement réunis en congrès. Donc, dans les deux cas, la révision est plus facile qu'en Espagne. Cela dit, la France est encore davantage obsédée par la défense de son unité territoriale. Le premier article de la Constitution française de 1958 pose que la France est une république indivisible, laïque, démocratique. Et sociale.
Alors, qu'en est-il pour l'Italie, Daniel?
Selon l'article 5 de la Constitution italienne de 1948, l'Italie est une république une et indivisible. Ce caractère semble cependant moins fondamental qu'en France, puisque dans son article 1, la Constitution italienne pose d'abord que l'Italie est une république démocratique fondée sur le travail. En outre, la révision est plus simple en Italie puisqu'elle n'exige que la majorité de chacune des deux chambres assortie d'un référendum si un cinquième des membres d'une chambre ou bien 800 000 électeurs en font la demande. En résumé, sur un plan juridique, une indépendance de la Vénétie serait plus simple qu'une indépendance de la Catalogne ou de la Corse. Mais d'autres constitutions sont plus laxistes encore.
Par exemple ?
Eh bien, prenons la Belgique, État fédéral qui se compose de communautés et de régions. Cette formulation interdit logiquement toute affirmation d'unicité du pays. Toutefois, l'article 91 de la Constitution belge précise que le roi jure d'observer la Constitution et de maintenir l'intégrité du territoire. Mais notons qu'il ne s'agit là que d'un engagement du monarque à son investiture et non d'une obligation constitutionnelle. Donc si par exemple la Flandre faisait sécession, Bruxelles ne pourrait formellement déclarer cet acte inconstitutionnel.
Alors Daniel, que dit la Constitution allemande ?
Outre-Rhin, il s'agit de la loi fondamentale de 1949. Elle pose en préambule que les 16 Länder allemands ont parachevé l'unité et la liberté de l'Allemagne par une libre autodétermination. La République fédérale d'Allemagne étant, précise l'article 20, un État fédéral démocratique et social. Donc, ni unicité, ni indivisibilité, contrairement à la France, l'Italie ou l'Espagne. En fait, la loi fondamentale allemande se préoccupe de ce qui se passe au sein des Länder et non pas de la nécessité de maintenir ensemble tous ces Länder. L'article 73 pose en effet que l'ordre constitutionnel des Länder doit être conforme au principe d'un état de droit républicain, démocratique et social. En poussant un peu le bouchon, on pourrait dire que la Bavière peut quitter la fédération à condition qu'elle ne reconstitue pas la monarchie des Wittelsbach.
Alors à cette liste, il manque le Royaume-Uni, Daniel.
Ni constitution, ni même de loi fondamentale outre-Manche, où les règles organisant la nation sont largement coutumières et s'appuient sur de grands textes de référence historique, comme la Grande Charte de 1215, le Bill of Rights de 1689, l'Acte d'Union de l'Angleterre et de l'Écosse de 1707, ou encore le Scotland Act de 1998, qui met en place un parlement et un gouvernement en Écosse. Les seuls principes écrits précisent que le Parlement écossais ne peut amender l'Acte d'Union de 1707 et qu'il ne peut légiférer sur les matières réservées au Parlement de Westminster, qui reste souverain. Rien n'est donc prévu pour la sécession éventuelle de l'une des nations constitutives du royaume, et l'on comprend mieux que le référendum d'indépendance de l'Écosse de 2014 se soit tenu en accord avec Londres, le gouvernement britannique n'ayant aucune base juridique pour s'y opposer. Rien à voir donc avec l'Espagne et la Catalogne.
Merci Daniel Vigneron, tout ceci à retrouver sur le site myeurope.info.
À bientôt Laurent.
L'indépendance de la justice sérieusement remise en cause en Pologne. Les conservateurs au pouvoir depuis 2 ans multiplient les réformes et les projets de loi qui restreignent considérablement cette indépendance. Un collectif baptisé Tribunaux Libres essaie de s'y opposer et de sensibiliser la population à l'importance de la séparation des pouvoirs. Maya Szymanowska a rencontré ces jeunes avocats qui sont entrés en résistance.
Depuis quelques mois, les week-ends à Varsovie ressemblent à cela. Des manifestants qui s'égosillent dans les rues de Varsovie pour défendre les libertés et s'opposer au virage autoritaire des conservateurs. Car la première cible du parti au pouvoir, c'est bien l'indépendance de la justice. Après la mise au pas du tribunal constitutionnel, le parti Droit et Justice voudrait s'attaquer à la Cour suprême et aux tribunaux civils. Un collectif de citoyens vole naissant dès les tribunaux libres tente depuis cet été de tirer la sonnette d'alarme. Katarzyna Gajowniczak-Pluszyńska, avocate, est l'une des initiatrices de ce collectif.
Cette initiative est portée notamment par des juristes, des avocats, mais pas seulement. C'est un mouvement citoyen et spontané. Son but, c'est d'expliquer de manière claire à monsieur tout le monde pourquoi l'indépendance des tribunaux et des juges est fondamentale, non seulement pour garantir la démocratie, mais aussi son impartialité face à tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions, leur sexe ou leur religion.
Myślę, że sprawa niezależności sądów i trybunałów
Des acteurs, des réalisateurs, des juges et des écrivains ont prêté leur voix pour raconter des cas particuliers où l'importance de l'indépendance des tribunaux est facile à comprendre. Comme cet exemple lu par la réalisatrice Agnieszka Holland, imaginez, vous êtes médecin, dit l'auteur des auteurs provinciaux, imaginez que vous devez soigner la mère d'un homme politique en vue. Si elle meurt malgré vos soins, l'homme politique en question cherchera un coupable et vous deviendrez le coupable idéal. Qu'est-ce qui vous garantira un procès équitable si les juges sont choisis par cet homme politique ? Demande encore Agnieszka Holland. Ces mini-spots diffusés sur les réseaux sociaux ont germé dans l'esprit de l'avocate Paulina Kieszkowska-Knapik.
Nous avons décidé de nous servir de nos affaires, de nos dossiers, pour montrer à tous combien ces changements sont graves et ce que l'on risque de perdre. Et malheureusement, ce que nous avons déjà perdu, car l'une des lois déjà votées concerne les tribunaux les plus proches du peuple. Il ne s'agit pas de la Cour suprême, mais des tribunaux de région, des tribunaux civils et des cours d'appel. Cette loi y est déjà en vigueur. Elle permet au gouvernement d'avoir le contrôle absolu de l'organisation de ces tribunaux, de choisir par exemple les juges.
Les deux fondatrices des tribunaux libres concèdent bien qu'une réforme du système judiciaire était effectivement nécessaire. Les tribunaux polonais sont débordés, les procédures compliquées, mais les réformes proposées par le parti qui s'appelle pourtant Droit et Justice sont selon elles contre-productives.
Prenons l'exemple de la Cour suprême. On critiquait sa lenteur, mais ils ont fini par vouloir réduire le nombre de juges de 100 à 46. Où est la logique dans tout cela ? Moins de juges ne vont pas juger plus vite. Il se trouve que les juges écartés se sont opposés aux changements apportés au tribunal constitutionnel, désormais à la botte du pouvoir politique. Ce ne sont pas des personnes bien vues par le pouvoir en place.
L'ampleur de la contestation contre trois projets de loi réformant en profondeur la justice et proposés juste avant la trêve estivale a étonné même les conservateurs. Il faut dire que les Polonais descendaient pour la première fois dans la rue pour défendre une idée aussi abstraite que la liberté et l'indépendance de la justice. Curieusement, ce sont les jeunes qui se sont beaucoup mobilisés sur cette question. Cette mobilisation a poussé le président, pourtant conservateur, Andrzej Duda, à opposer son veto à deux des trois textes. Pour Katarzyna, c'est le signe d'un grand tournant.
Je pense que cette décision va rendre beaucoup plus difficile la réélection des conservateurs dans deux ans. La société polonaise comprend les enjeux, l'importance de la séparation des pouvoirs, et elle ne veut pas vivre dans un pays où cela n'est pas garanti. J'ai beaucoup de collègues qui ont pourtant voté pour le PiS, mais qui aujourd'hui disent « je ne suis pas d'accord avec ces réformes ».
L'optimisme de Katarzyna devrait être vérifié dans les urnes à l'automne prochain, lors des élections locales. Pour l'instant, les deux amis continuent à maintenir la mobilisation. Le week-end prochain, elles seront devant le bâtiment des tribunaux de Varsovie, une bougie à la main.
Une façon différente de visiter les grandes villes italiennes. De petites agences de voyage proposent aux touristes et habitants de découvrir les quartiers populaires à travers le regard de ceux qui y vivent, souvent des immigrés. L'idée de ce Migrant Tour est née à Turin, dans le nord du pays, dans le quartier de Porta Palazzo. Suivez le guide avec Cécile Debarge.
Ciao.
Dans cette boucherie à l'aile de Porta Palazzo, l'un des quartiers populaires de Turin, Sarah connaît tout le monde. Rien d'étonnant, ce quartier, c'est le sien. Et sur les étals de la petite boutique, des produits qu'elle connaît par cœur.
Ici, on a des pistaches et puis plein d'autres produits, des prunes pour préparer des plats, comme les tagines dans la cuisine marocaine. Et puis là, on a le coin réservé aux femmes avec les produits de beauté. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut sembler étrange d'aller à la boucherie pour s'acheter du baume pour les cheveux.
Sarah a 27 ans. Elle est l'une des guides de Migrant Tour Turin. Au total, elles sont une dizaine venues de Roumanie, du Maroc, de Tunisie, de Colombie, du Pérou ou simplement d'Italie. Aux informations historiques trop détaillées, les guides préfèrent les anecdotes personnelles, comme lorsque Sarah raconte ses habitudes de Ramadan.
Quand on rompt le jeûne, la première chose qu'on prend, c'est de l'eau ou des dattes. Et effectivement, même moi, dès que je prends une date, après une journée sans manger, je reprends des forces.
L'objectif de Migrant Tour est précisément celui-ci.
Un guide pourrait te dire que telle colonne est de tel style et qu'elle pèse une centaine de kilos. Alors que nous, on essaie de favoriser les histoires de personnes plutôt que l'histoire architecturale ou artistique.
artistica.
Le deuxième objectif est comme un cri du cœur pour Sara.
Que Porta Palazzo ne soit plus considéré comme un quartier de délinquants. C'est l'image qu'on en a jusqu'à maintenant. Moi, je vis et je travaille ici et beaucoup de mes amis me demandent « Mais comment tu fais pour vivre ici? C'est hyper dangereux. C'est comme si, c'est comme ça. »
À Turin, presque chaque promenade de Migrant Tour permet de plonger dans l'univers d'une communauté d'immigrés. À Borgo San Paolo, la communauté sud-américaine à Mirafiori, ancienne zone industrielle où se trouvaient les usines de la Fiat, c'est un mélange d'Italiens du sud du pays et de migrants venus du monde entier. À chaque promenade, une thématique. L'une d'elles, particulièrement suivie, propose aux visiteurs de découvrir synagogues et mosquées du quartier de San Salvario.
À la salle de prière d'une des mosquées de San Salvario, ils rencontrent de jeunes musulmans avec qui ils peuvent discuter. Et souvent, ils se rendent compte que ce sont des gens comme eux et que la mosquée est un endroit où ils peuvent venir.
Une idée qui attire de plus en plus de monde, raconte Sarah.
On a des Turinois qui veulent se balader, des classes aussi, beaucoup de classes. On fait avec eux des promenades, dès l'école primaire en fait, même avec des étudiants en fac avec qui on a plusieurs parcours. Et puis il y a aussi des personnes plus âgées qui viennent de 50 ou 60 ans.
À Porta Palazzo, l'un des plus grands marchés en plein air d'Europe, le thème choisi est la cuisine. Et après la culture maghrébine, Sarah sort de son sac quelques produits dont l'un d'eux laisse perplexe.
Ça, à ton avis, c'est quoi? Ah, tu ne sais pas, hein? Allez, essaie de deviner. Ce sont des nuages de dragons.
Ces nuages de dragons, ce sont en réalité de petits flocons blancs et jaunes qui, une fois frits, deviennent des chips chinoises aux crevettes. Une entrée en matière pour la visite suivante dans une échoppe chinoise. En 2 heures, Porta Palazzo s'est révélé à travers ses stands de poissonniers venus du sud de l'Italie, ses sacs de quinoa destinés aux communautés sud-américaines, ses biscuits de la fortune typiques des restaurants chinois.
La nourriture nous unit. La première chose que quelqu'un fait quand il a un invité, c'est de lui offrir à manger. Eh bien pour nous, c'est un véritable outil pour nos promenades. On part ainsi à la rencontre des gens, on crée des ponts avec les autres, et souvent c'est la réaction qu'on a lors de nos promenades. Ah tiens, je ne savais pas que ça c'était comme ci ou comme ça. On redécouvre d'une manière tout autre le monde.
Après Turin, ce sont les villes de Rome, Florence et Milan qui ont suivi l'exemple, chacune avec ses spécialités. Rome, par exemple, est une ville de choix pour partir à la rencontre de la communauté pakistanaise. Seul le credo, en réalité, ne change jamais. Voyager sans faire de kilomètres pour découvrir le monde dans sa propre ville.
En Serbie maintenant, l'hippodrome de Belgrade va-t-il pouvoir être sauvé? Inauguré en 1914, celui-ci est toujours en activité, mais les courses se font rares et le public encore plus, Laurent Gélin.
Après le quartier de Savamala détruit il y a un peu plus d'un an, l'hippodrome de Topšider va-t-il à son tour être victime de l'appétit sans limite des promoteurs immobiliers qui font des affaires dans la capitale serbe? Le champ de course de Belgrade serait pourtant l'une des 10 installations sportives encore en activité les plus vieilles du monde. Inauguré à la veille de la Première Guerre mondiale, celui-ci n'a jamais cessé de fonctionner, ni durant l'occupation allemande, ni pendant les bombardements de l'OTAN en 1999. Mais en 2018, la concession de 30 ans accordée à l'entreprise publique Beogradski Hippodrome pour exploiter les 28 hectares de terrain arrivera à son terme. À l'heure actuelle, seuls 2 employés travaillent sur le site, les écuries sont vides et le complexe menacé par les constructions illégales. Les propriétaires de chevaux ont préféré déménager leurs bêtes à Budapest, Vienne ou Bratislava, et seules 2 courses ont pu être organisées depuis janvier dernier. Pour rénover le site, le bureau d'urbanisme de la ville de Belgrade a donc lancé un appel à projet pour la modernisation des infrastructures de l'hippodrome, notamment des gradins et de la loge royale. Mais en coulisses, il se murmure que cette initiative viserait surtout à satisfaire les signataires d'une pétition demandant la protection du champ de course, qui a récolté plusieurs milliers de signatures, pour ensuite, bien sûr, pouvoir faire des affaires bien plus juteuses.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr à la page émissions.